VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Un avion de ligne d'Égyptair reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord s'est écrasé en Méditerranée après avoir disparu des écrans radar pour une raison encore inconnue. Accident ou attentat, aucune information n'est encore disponible pour expliquer la soudaine disparition de l'Airbus A320. L'appareil s'est écrasé au large de l'île grecque de Karpathos, au sud-est de la mer Égée. L'Égypte et la Grèce ont dépêché dans la zone des avions et des navires pour tenter de trouver l'Airbus A320. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Le vol MS-804 a décollé à 23h09, heure de Paris, avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français selon l'AFP. Le vol MS-804, un Airbus A320, s'est trouvé à 37 000 pieds d'altitude et était entré dans l'espace aérien égyptien quand il a disparu des radars jeudi à 2h45, heure du Caire, a d'abord précisé Égyptair sur son compte Twitter. L'appareil transportait 56 passagers, dont un petit garçon et deux bébés, ainsi que 7 membres d'équipage et 3 officiers de sécurité, a ajouté plus tard la compagnie nationale dans un communiqué. Des appareils et navires de secours civils et l'armée passaient la zone au peigne fin en mer Méditerranée dès le milieu de la nuit, selon le communiqué de la compagnie aérienne. Égyptair a publié une liste énumérant les nationalités de 56 passagers, 30 Égyptiens, 15 Français, un Britannique, un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, 2 Irakiens, un Saoudien, un Coréen. La France n'écarte aucune hypothèse et va coopérer étroitement avec l'Égypte pour en élucider les circonstances, ont assuré jeudi matin les dirigeants français.
Au Mali, 5 casques bleus tchadiens tués et 3 autres blessés mercredi lors d'une embuscade dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place. L'attaque a eu lieu au nord d'Aguelok, alors que les casques bleus escortaient un convoi logistique. Ce dernier a heurté un engin explosif et a ensuite été la cible de tir, précise le communiqué de la MINUSMA, qui fait état d'un nombre indéterminé d'assaillants non identifiés. Selon la MINUSMA, 3 suspects ont été capturés et seront remis aux autorités compétentes. Le chef par intérim de la mission onusienne, Kone Davidze, a condamné dans les termes les plus forts cette nouvelle attaque qu'il qualifie d'abjecte contre les casques bleus au Mali. Mauritanie, au lendemain de sa libération, le leader anti-esclavagiste mauritanien Biram Dahabeid a annoncé sa détermination à briguer à nouveau la présidence, les précisions de John Lyndon.
Arrêté en novembre 2014, Biram Dahabeid et son vice-président Brahim Ould Bilal avaient écopé de 2 ans de prison en janvier 2015 après avoir été reconnus coupables d'appartenance à une organisation interdite et organisation d'une manifestation interdite, entre autres. Arrivé en deuxième position lors de la dernière présidentielle, Biram Dahabeid a annoncé son intention de se porter candidat à nouveau, déclarant à l'agence Reuters que son intention est d'accéder à la magistrature suprême par le vote, la voie pacifique et démocratique. Ses activités anti-esclavagistes l'avaient conduit en prison à 2 reprises avant son tout dernier emprisonnement. L'esclavage est un crime contre l'humanité en Mauritanie, où il toucherait entre 4 à 20% de la population. Lundi, 2 propriétaires d'esclaves ont été condamnés chacun à 5 ans de prison et ordonnés de verser des compensations à leurs 2 victimes.
Au Nigeria, Amina Ali, la première des 219 lycéennes de Chibok retrouvées saines et sauves, plus de 2 ans après leur enlèvement, doit être reçue aujourd'hui à Abuja par le président Muhammadu Buhari. Un rappel des circonstances de sa libération avec Nani Talani.
La lycéenne Amina Ali avait 17 ans lors de son enlèvement. Elle a été retrouvée mardi au cours d'une patrouille de l'armée et de miliciens d'autodéfense dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno. Sur une photographie fournie par l'armée, on peut voir une jeune femme hébétée sous un hijab et portant un bébé présenté comme sa fillette de 4 mois. Le mouvement Bring Back Our Girls assure que la jeune fille leur a confié que les autres lycéennes sont toujours captives et qu'au moins 6 d'entre elles sont déjà mortes. En avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 jeunes filles d'une école secondaire de Chibok. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper. Stephen O'Brien, patron des opérations humanitaires de l'ONU en visite à Maïdougouri, a déclaré que ce retour était une nouvelle formidable, mais a rappelé que des milliers d'autres personnes sont toujours aux mains de Boko Haram.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cameroun, l'armée camerounaise poursuit sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram avec des résultats encourageants. Ces derniers jours, des leaders du groupe terroriste ont été arrêtés, des otages libérés, mais plusieurs soldats camerounais sont aussi tombés sur le champ de bataille. Les précisions de Gibaï Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, au micro de John Lyndon.
Aujourd'hui, l'armée camerounaise comprend mieux le fonctionnement de la secte parce qu'elle a arrêté les soufis, elle a arrêté les logisticiens et maintenant elle arrive à capturer les têtes pensantes, les opérationnels. Donc elle maîtrise mieux son adversaire et ça permet à ce qu'elle mène des opérations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pointues et qui peuvent apporter de bons résultats. Mais je dois dire que la secte avait atteint un certain niveau de déstabilisation qui était élevé aussi. Et que malgré tout ce que l'armée camerounaise fait, ce que l'armée nigériane est également en train de faire, il reste encore beaucoup à faire. Parce que vous avez des zones comme le lac Tchad qui est encore, malheureusement, qui est encore sous contrôle de la secte. Ou en tout cas, où les deux armées n'arrivent pas à faire de bonnes percées comme ailleurs.
Qu'en est-il des groupes d'autodéfense qui, à un moment donné, ont aussi participé à cette lutte contre Boko Haram?
Écoutez, ce succès de l'armée camerounaise n'aurait pas été possible, du moins à ce niveau, si les groupes d'autodéfense ne s'étaient pas eux-mêmes concentrés sur l'objectif. Ce qui fait que les militaires sont plus libres d'opérer parce qu'ils ne sont plus affectés à des tâches de surveillance des entrées de villes, des surveillances des localités, des activités de routine. Donc l'armée peut rester concentrée efficacement sur son objectif et laisser les autres aspects au comité de vigilance. Jusqu'ici, ça se passe très bien. Il y a quelques problèmes d'organisation, de logistique même de ces groupes d'autodéfense, même parfois de rémunération, parfois de petits mouvements d'humeur. Mais comme c'est un phénomène qui est nouveau, ça prendra du temps pour qu'il soit structuré. Mais c'est la combinaison de ces deux facteurs, comité de vigilance armé, c'est cette combinaison-là qui donne ces résultats aujourd'hui.
Alors, on a parlé à un certain moment de la fermeture des marchés le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. La plupart des marchés sont toujours fermés. Il y a à peine 3 ou 4 marchés à la frontière qui essaye de résister. Ça rend la vie des populations très, très difficile. Vous savez que c'est déjà des zones très pauvres et quand il n'y a pas encore d'activité économique, l'ouverture des marchés, ça complexifie le problème. Mais ceci dit, si l'armée et les comités de vigilance restent sur cette dynamique, je pense qu'avant la fin de l'année, on pourrait assister à la réouverture de plusieurs marchés.
Gibaï Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, joint par John Lyndon au Cameroun. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exhorte le président kényan Uhuru Kenyatta à surseoir à sa décision de mettre fin à l'accueil des réfugiés somaliens et aussi de fermer leur camp au Kenya. Le point avec Eric Manirakiza.
Ban Ki-moon a plaidé dans une communication téléphonique pour le maintien de l'accord tripartite qui engage les gouvernements kényan et somalien, l'OHCR. Cet accord, signé en novembre 2013, est destiné à faciliter le retour volontaire des réfugiés somaliens dans leur pays, dans la sécurité et la dignité. Le communiqué de l'ONU ne dit rien sur la réaction du président Kenyatta au cours de cette conversation téléphonique avec M. Ban Ki-moon. Il mentionne que l'ONU est engagée à mobiliser le soutien de la communauté internationale pour traiter les défis auxquels fait face le Kenya, qui notamment a motivé sa décision en invoquant des raisons de sécurité nationale.
Afrique du Nord, en Libye, le gouvernement d'Union a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à accélérer son réarmement après la mort de 32 membres de ses forces dans un attentat et aussi des combats avec le groupe djihadiste État islamique. Le nouvel exécutif libyen installé à Tripoli demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et d'accélérer la réalisation de ses promesses, notamment celles sur la levée de l'embargo sur les armes. Et enfin, en Tunisie, un chef djihadiste dangereux a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une opération terroriste menée par l'armée dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère de la Défense. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.